souhaitez une excellente soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est très précisément 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen, sur 100,6, à Chartres, sur 104,5, à Cherbourg, sur 87,8, au Havre, sur 101,1, au Mans, sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, aujourd'hui par Daniel Amiche avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 15 août 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61-75-0 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone 01-46-51-00-85, par télécopieur au 01-46-51-21-82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Eh bien bonsoir, chers auditeurs, merci de nous rejoindre en direct en ce mercredi 15 août, qui est à la fois la fête de l'Assomption, qui est un peu la fête nationale de la France. Bonsoir Victoria.
Bonsoir Daniel.
Très content de vous avoir. Nous avions, bon, le programme a un petit peu bousculé, puisque on va avoir un direct pendant une heure et demie avec notre invité. Nous devions avoir deux invités pour faire trois heures d'émission, malheureusement. Le second invité, tout franc. Alors, c'était l'abbé Claude Barthes, alors on le salue s'il nous écoute, et en tous les cas, on lui adresse tous nos voeux de prompt rétablissement. Alors, c'est pas très grave, mais voilà, il ne peut plus parler, il est allongé, ce qui n'est pas sa position habituelle, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt debout, et qui est actif, et c'est peut-être ça, alors, une petite faiblesse. Alors, nous aurons donc, en première partie, une discussion très intéressante, j'en suis sûr, avec monsieur l'abbé Chanu, que nos auditeurs ce matin, on conserve de luxe qu'ils ont ce soir en produits frais. Ce matin, c'était ce midi, c'était le libre journal de Gérard Marin, l'excellent camarade, qui vous a reçu pendant une partie de son émission. Et alors moi, j'ai eu la joie de pouvoir vous entendre ce matin, sortant moi-même des offices, j'ai pu vous entendre, ce qui était une homélie un peu meilleure que celle que j'ai entendue ce matin. Enfin bon, passons. Nous avons parti donc à l'enregistrement que j'avais effectué au mois de mai dernier avec deux Égyptiens, un jésuite égyptien, le père Henri Boulade, et puis un journaliste égyptien, William Wissa, et vous en apprendrez beaucoup sur la situation des catholiques et des chrétiens en général et des catholiques en particulier en Égypte. Vous verrez que c'est pas fameux, mais il y a quand même un petit peu de résistance. Alors je parlais de la maladie de notre très bon camarade l'abbé Claude Barthes, et il faut également que je vous parle un peu de celle de Serge Bekech, puisque oui. Beaucoup d'auditeurs et beaucoup de patrons d'émissions se sont émus de savoir que son état de santé n'était pas fameux. Alors je n'ai pas pu le joindre au téléphone, ni aujourd'hui mercredi, ni hier, mais je l'avais eu lundi soir, et il m'avait annoncé une nouvelle qui était plutôt rassurante, puisqu'il avait une autorisation de sortie de son hôpital de Perpignan, pour passer donc les fêtes du 15 août en famille avec son épouse et je pense ses fils. On a même d'ailleurs un petit peu plaisanté parce que il était très content que ce jour-là, c'était donc lundi midi, l'administration hospitalière de Perpignan lui a permis, après un régime disons plutôt lacté et à base de yaourt pendant 12 jours, lui a permis de manger un petit peu de viande hachée. Il était très content, mais il dit, expliquait ça comme si c'était de l'ortolan. Ce à quoi je lui ai répondu, dans les hôpitaux, quand on te sert du haché de viande, généralement on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, il peut y avoir de l'ortolan. Alors on a rigolé, donc il était plutôt de bonne humeur. Oui. Mais enfin, ceci dit, ce n'est qu'un petit... Il doit regagner l'hôpital, je pense, ce soir ou demain matin, pour encore des traitements, encore des analyses, et ça veut dire pour nos auditeurs, un surcroît de prières et de messes aux intentions de la santé de Serge, qui n'est donc pas extraordinaire quand même. Il faut
est un peu trompe la mort, le
Serge. Comme disant que je me suis la Michalut, est un petit peu trompe la mort, mais parfois aussi il faut faire attention. Voilà. Hein, il faut faire attention.
Espérons que cette fois encore il gagnera le combat. Alors qu'on l'a vu dans des états.
Mais ça c'est malheureusement.
D'abord,
ça, c'est...
les prières de ses amis sont efficaces, c'est ce qu'on a vu. Et ensuite, quel tempérament.
Et nous, on veut qu'il se remette très vite sur pied, parce que les auditeurs en ont besoin. Il fait partie des locomotives de cette radio. Tout le monde l'aime beaucoup. Et ça a été vraiment, moi-même, j'ai été assailli de coups de téléphone, ayant prié les auditeurs de ne pas l'importuner lui, parce que sur un lit d'hôpital, jamais très très facile. Donc, essayer de donner un peu d'informations, c'est toujours très difficile. Enfin bon, je n'ai pas de nouvelles. Donc, comme dit le proverbe familier, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Il est en famille. Il retourne dans l'hôpital ce soir ou demain matin. Les soins lui sont évidemment apportés. Et nous espérons donner de meilleures nouvelles la semaine prochaine, soit dans le libre journal d'Henri Glesquin, soit dans celui que dirigera, je pense, mercredi prochain, notre ami Bernard Anthony en première partie. Monsieur Labichalus, c'est une grande joie de vous recevoir de nouveau dans cette émission. Nous avions un très gros programme de discussion, mais là, nous allons réduire à
voilà
tout petit peu.
Voilà.
Alors, nous renouvellerons avec la, vous voulez bien, avec l'abbé Barthes une prochaine occasion. C'est pas surpris parce que je dirais que c'est quand même, l'abbé Barthes est un très bon connaisseur des choses du Vatican. Il y a beaucoup d'actualités au Saint-Siège actuellement, vraiment beaucoup, beaucoup d'actualités, notamment le projet d'un consistoire pour le mois de novembre, puisque là, on est tombé sous le seuil nécessaire à l'élection du souverain pontife. Également, d'ailleurs, aussi, les nouvelles normes que le pape Benoît XVI, par le fameux premier motu proprio, parce qu'on attendait un motu proprio, mais il y avait un autre qui l'a précédé trois semaines, qui était très intéressant, puisqu'il il rétablissait la forme ancienne de l'élection. On en dira peut-être quelques mots, si vous voulez, vers la fin de cette émission, parce que c'est très, 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 très important. Mais je voulais vous faire réagir sur un certain nombre d'événements. Je le voyais dans pas plus tard que dans le numéro d'un grand quotidien du matin, que je ne citerai pas, comme ce journal fait rarement de la publicité pour Radio Courtoisie, j'ai vraiment aucune raison de faire la publicité pour lui, un grand article qui vient après plusieurs bruissements dans les médias sur la vogue des pèlerinages. Alors, en une du grand quotidien du matin, on voyait un article très intéressant disant que les quelques 120 sanctuaires français ont le vent en poupe. On signalait que l'an passé, 43 millions de personnes étaient venues en pèlerinage dans ces sanctuaires, dont les deux tiers étaient des Français, et que selon le président de l'association Ville Sanctuaire de France, Mgr Patrick Jacquin, il disait cette chose-là, sur laquelle je voudrais vous faire réfléchir. Citation de Mgr Patrick Jacquin. Les évêques accordent de plus en plus d'importance à ces lieux, ils sont un instrument de renouveau dans la continuité de la tradition. J'ai pensé que cette phrase vous ferait plaisir et que vous auriez envie de réagir là-dessus. Monsieur l'abbé, je ne vous ai pas bien présenté, mais enfin vous êtes l'ancien curé doyen de Milly-la-Forêt.
Ah non,
j'étais toujours curé doyen jusqu'au 1er septembre. Hein.
Ah voilà, c'est ça.
Donc il faut toujours vous donner du monsieur le curé doyen.
Ah ben, je alors, bien, oui.
Curé de Milly-la-Forêt.
Après, je prends l'honoraire, je pense.
L'honoraire, j'espère. Et puis après, il mérite. Et puis plus, il y a affection. Et vous êtes également archiviste du diocèse de Corbeil et Vieux-Essonne, et puis vous êtes appelé à de nouvelles fonctions à partir du 1er septembre, donc il est peut-être un peu trop tôt pour causer. Voilà. N'en parlons pas, nous en parlons à partir du 1er septembre. Donc je voulais vous faire réagir là-dessus, à la fois sur ce phénomène, qui est un phénomène tangible, palpable, qu'on peut voir. Il est valable en France, je crois qu'il est aussi valable dans d'autres pays. En tout cas en France, il est particulièrement important. Je tenais à ce qu'on en parle aujourd'hui, puisque c'est le 15 août et qu'il y a un grand pèlerinage national à Lourdes.
Et beaucoup d'autres
pèlerinages dans d'autres sanctuaires, mais qui va réunir à Lourdes, je crois, entre 40 000 et 50 000 pèlerins. C'est quand même quelque chose de tout à fait considérable. Donc, je voulais vous faire réagir et sur ce phénomène, ce renouveau, et également sur cette citation de Mgr Patrick Jacquin, qui se félicitait que les évêques accordent de plus en plus d'importance à ces phénomènes.
Qui, lui, est l'ancien recteur de Lourdes. C'est un phénomène que le grand quotidien du matin constate enfin, c'est sans doute qu'il n'avait pas autre chose à nous raconter, mais c'est un phénomène qui maintenant devient ancien. C'est un phénomène qui a un quart de siècle. C'est une ode à laquelle les événements prennent une consistance notable. La question reste, pourquoi y a-t-il eu autrefois une désaffection et pourquoi le courant s'est inversé? Or, le courant s'est inversé parce que le peuple a repris ce qui lui appartenait et que l'on avait voulu, d'une certaine manière, pas lui subtiliser, pas lui supprimer, mais à propos du pèlerinage, il fallait dire autre chose, il fallait faire autre chose, il fallait faire passer un certain nombre d'idées nouvelles, et ceci et cela. Si bien que les gens qui, eux, venaient au pèlerinage, comme étaient venus leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, qui venaient au pèlerinage avec tout ce qu'il est convenu d'appeler bêtement la piété populaire, comme s'il y avait une piété qui était aristocratique, venaient là pour ça. Et tout à coup, ils se trouvaient, enfin tout à coup, mais progressivement, si j'ose ainsi parler, ils se trouvaient à voir autre chose de ce qu'ils voulaient. Et ce, par exemple, qui les attachait à la Sainte Liturgie, était brisé volontairement. On n'avait rien vu de pire à bien des endroits que les messes des pèlerinages du 15 août, quelquefois dans des lieux de pèlerinage où il n'y a que un jour de pèlerinage, c'est le 15 août, donc c'est le 8 septembre, etc. La France est couverte de sanctuaires. Chaque diocèse en a un, deux, trois, quatre, bref. Évidemment, ces sanctuaires ne sont pas là pour rien. Pour la plupart, d'ailleurs, ce sont des constructions pas très anciennes, ce sont des constructions du 19e siècle. Si elles ont été construites au 19e siècle, c'est sûrement qu'il y avait du monde qui venait, puis qui venait avec des billets par-dessus le marché pour pouvoir construire la chose. Parce qu'après tout, les lieux de pèlerinage, ils ont souvent été construits par les pèlerins, parce qu'ils sont dans des endroits complètement perdus. Je pensais au pèlerinage de l'Épine, où il y a une basilique superbe.
Notre-Dame de l'Épine.
Si à 150 habitants dans le bled, c'est le maximum. Donc on voit bien.
Là, c'est une belle construction gothique. Hein. On fait bien la paix. C'est celle qui est en Champagne, c'est ça, qui n'est pas très bonne de Chalon-sur-Marne.
Elle est finie, contrairement à d'autres endroits. Les gens ne se trouvaient plus chez eux. Et ce pourquoi ils venaient n'était pas ce pourquoi on les recevait. On les recevait pour qu'ils puissent sucer au lait de la mamelle tous les lois de la subversion, alors qu'eux venaient pour autre chose, ils venaient tout simplement pour faire pèlerinage. On a vu des pèlerinages où on avait supprimé les cierges, par exemple, parce que vraiment c'était pas bien, on avait supprimé les mêmes, enfin des choses dont on aura peine à croire qu'elles ont été vraies lorsque les historiens raconteront ce que nous avons vécu. Tout à coup, évidemment, les gens venant de moins en moins, le clergé se faisait de plus en plus absent. Quand il faisait encore le pèlerinage, alors à ce moment-là, les gens sont revenus. Les gens sont revenus, ils ont pris leur position. Et il y a un mouvement qui dure donc maintenant depuis un quart de siècle, qui n'est pas vrai que pour le pèlerinage, mais qui est vrai pour tout l'ensemble. Et on l'a vu culminé au moment du jubilé de l'an 2000. Le jubilé de l'an 2000, ça a été le retour d'un nombre de choses considérables. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté à cette antenne un de mes amis, qui doit être vous d'ailleurs, je pense, me demande un article sur le jubilé de l'an 2000. Et je dis, fatigué avec le jubilé, qu'est-ce que je m'en vais leur raconter? Tous les journaux, y compris le Grand Quotidien dont on parlait tout à l'heure, racontaient strictement la même chose. Il aurait mieux fallu envoyer des photocopies que d'acheter les journaux, que des revues, des magazines. Tous disaient la même chose. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais pas perdre mon honneur en faisant quelque chose de non original. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter là-dessus? Or, je suis paresseux de nature, je m'en accuse. Pas beaucoup de contrition, mais je m'en accuse. Et je suis un paresseux qui est obligé de travailler. Je fais en sorte que le travail soit le plus doux possible. Et j'ai chez moi une multitude de dossiers bêtement rangés par ordre alphabétique. Et quand j'ai besoin de documentation, j'ouvre ces dossiers où je mets des articles de journaux, des ceci et des cela. Et j'ouvre le dossier année sainte jubilée. Évidemment, je vois encore toujours la même chose, sauf un article d'une revue bien connue, dont nous n'avons aucune raison de faire la publicité, parce que ça vous assure que nous, elles ne nous en font pas, une revue tenue par les jésuites, avait été publiée à l'année sainte 75, et où le type disait, oh, ben l'année sainte, qu'est-ce que ça, oh, bon, oui, les pèlerinages, il n'y en a plus, les indulgences à l'heure de l'œcuménisme, est-ce qu'on peut en parler? Les reliques, non pas. Oui, mais ça permet de dire son attachement à la liturgie de Vatican II, en gros. Et puis au pape aussi, le pape qui était le pape Paul VI régnant alors. Et je me dis, voilà mon article, parce que en l'an 2000, 25 ans après, les pèlerinages, ils ne se font plus en pullman où on transporte les mémères jusqu'aux portes de la grotte, ils se font à pied pendant, et les pépères aussi, oui. Victoria, remettez-vous. on va des gens à pied qui marchent des kilomètres, quelquefois des centaines de kilomètres, qu'on voit le pèlerinage de Chartres, que l'on voit les pèlerinages au Mont-Saint-Michel par exemple, etc., les pèlerinages de Compostelle, et Dieu sait si on pourrait en dire, les reliques, quand on se souvient des queues ininterrompues pour aller voir le Saint-Suaire, hein, qui était offert à la vénération des fidèles, les indulgences, alors il suffit simplement de lire la bulle d'indiction de l'année sainte pour s'apercevoir que au moins les choses sont claires, etc. Il y a un monde nouveau qui est né, voilà, un monde nouveau qui est né, débarrassé du cléricalisme, parce qu'il est né du désir de la piété des gens. Et ça, c'est merveilleux, et ça, c'est magnifique. Maintenant que les curés essayent de récupérer les trucs, que tous les associations de recteurs de machins et de trucs essayent de nous dire que c'est eux qui l'ont fait, mon Dieu, si ça les amuse, tant mieux. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils n'y sont pour rien du tout. Qu'ils n'y sont pour rien du tout. Ils suivent, puisqu'ils sont leurs chefs, il faut bien qu'ils les suivent. C'est à peu près ça. C'est vraiment quelque chose qui est né du cœur du peuple catholique. Allez, toutes ces choses ne devraient plus exister.
Et c'est très intéressant de voir à la fois la reprise des pèlerinages, la reprise des dévotions.
Oui, vous allez dire quoi là?
L'adoration eucharistique, par exemple.
Oui, l'adoration eucharistique.
Les reliques, la procession des reliques, on voit à chaque fois que
le chapelet.
Le chapelet, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire qui avait déserté la vie de l'Église.
Hein. Je suis prêtre depuis pas tout à fait 30 ans, comme quoi personne ne rajeunit. Combien y avait-il d'adoration du Saint-Sacrement? Combien y avait-il de gens que l'on reconnaissait comme une véritable association qui récitait le chapelet dans les paroisses, etc. On peut légitimement se poser la question. J'ai un monde à regarder dans son diocèse, qu'est-ce qu'il y avait il y a 30 ans? Et qu'est-ce qu'on était en train de détruire il y a 30 ans? Je me souviens d'un séminaire où il y a eu toute une polémique parce que le supérieur ne voulait pas faire procéder à l'adoration du Saint-Sacrement, que les séminaristes demandaient. Après, on leur a dit, ah ben oui, ça si vous voulez, mais porte. Ah oui, si vous voulez, mais sans ostensoir. Alors on a pris une pomme de terre, on l'a mis du papier aluminium autour, et puis on a planté l'hostie là-dessus, comme ça il n'y avait pas de triomphalisme, pas de cierge, pas de fleurs, pas d'encens. Évidemment, pas de tantôt Margot, pas de salutaris hostia, rien du tout. Bon, je vais vous dire que cet endroit est fermé, je suppose. Mais depuis longtemps.
Les gamins ont dû fuir cet endroit depuis longtemps. Oui.
Nous avons connu cette place où l'on se faisait moquer de soi lorsqu'on récitait son chapelet, enfin, etc., etc. Il faut savoir d'où on vient. Et je veux dire que en cette période du 15 août, qui est vraiment la période, le moment de l'espérance, pas on lit dans la liturgie la visitation, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Mais c'est le moment que nous croyons, parce que nous avons vu, nous voyons, nous sommes les témoins d'un miracle permanent. Il ne devrait plus rien rester de tout ça, parce que ça fait 40 ans que ça dure. Et bien pourtant, tout ça revient, et en définitive, avec une telle force, une telle intensité, on ne peut pas le contourner, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas.
Est-ce qu'on peut dater ce nouveau tournant? Milieu des années 80 ou...
Oui, je date, les auditeurs l'ont déjà entendu ce matin dans la conserve. moi je dis l'année mariale de 88 a énormément changé les choses. À partir de ce moment-là, les choses ne sont plus comme elles étaient. On sent un frémissement, les choses changent. tout simplement aussi parce que pour ce qui concerne les pèlerinages mariaux, le souverain pontife Jean-Paul II était là-dessus un dévot très fort, très grand, très puissant. On pouvait difficilement
l'effet d'entraînement. L'effet d'entraînement et même aussi pour les évêques, parce que là, effectivement, ce que disait Mgr Patrick Jacquin, donc l'ancien recteur de Lourdes, avant Zambelli, c'est Zambelli maintenant, je crois, c'est ça, Mgr Zambelli, que les évêques accordaient de plus en plus d'importance à ces lieux comme un instrument de renouveau dans la continuité de la tradition, c'est très beau, non?
Ah bah oui, c'est le génie de Patrick Jacquin de savoir parler. Voilà, ça, on n'est jamais déçu quand on l'entend parler. Il a l'art de la formule. Mais c'est vrai, c'est indubitablement vrai. Mais ils viennent à la rescousse. Moi qui n'ai pas le devoir de réserve qu'a conseillé en Jacquin, je peux dire ce que je pense. Ils viennent à la rescousse.
Ils volent au secours de la victoire.
Exactement, oui, oui.
Ils suivent leurs troupes.
Ceci étant, je ne dis pas qu'il y a un certain nombre d'évêques nouveaux qui aient été des prêtres, qui ont fait avancer les choses de ce côté-là quand ils étaient au ministère. Il y en a quelques-uns quand même. Mais enfin, si on prend les biographies de tous les évêques les uns derrière les autres, bon, on ne va pas trouver des grands élateurs de la piété dite populaire. Et le seul fait ça populaire, c'est absolument indigne. Je ne sais pas qu'est-ce qui a inventé ce terme. Je suppose que quand il a inventé, c'était parce que c'était un peu comme la République populaire, quoi. C'était un peu la
démocratie populaire.
Mais aujourd'hui, cette expression condescendante, méprisante, hautaine, eux, ils n'ont évidemment pas cette piété populaire.
Mais les évêques, on va en parler un petit peu, si vous voulez.
Ah mon Dieu.
On va en parler. À moins qu'il y ait,
c'est un message de moi.
Ah bon, de vous?
Oui, passé à midi, j'ai pris au vol une émission justement à la télé qui parlait de cette affaire de pèlerinage et qui disait, alors je crois que c'était au Don Valais. Il a dit quelque chose qui moi m'a assez plu. Il a dit il y a beaucoup de monde au pèlerinage et très peu à la messe. C'est vrai, quand on voit dans les églises, il y a des milliers de personnes au pèlerinage et puis 20 personnes à la messe.
Un petit mot là-dessus.
Et attendez. Et bien c'est parce qu'on à la messe.
Ah, alors déjà, ça veut dire que la réforme liturgique n'a pas donné les fruits qu'elle escompte. Mais
il est vrai aussi que les chants ne sont pas très beaux. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir les petits chanteurs à la croix de bois. Il y a eu une émission, où les petits chanteurs à la croix de bois avaient chanté avec le pape, non?
Oui, c'est possible.
On
est plus dans l'ordre du musical que dans l'animation liturgique.
Alors ces chants ne poussent donc pas à la ferveur, et c'est pas le cas dans les pèlerinages, où je me demande si on ne chante pas les vieux cantiques, moi.
Bah écoutez, est-ce que je peux faire un petit commentaire là-dessus avant de vous passer la parole? Non, je dirais que la ferveur, elle est pas liée à des phénomènes extérieurs. La ferveur, elle est d'abord liée à l'intérieur. Alors, est-ce que la liturgie bien comprise, quel que soit, je dirais, le rite ordinaire et extraordinaire dans lequel elle est célébrée, et elle est vraiment intériorisée par les personnes qui sont là. Évidemment, il y a une participation. Enfin, si les gens viennent là et uniquement pour assister à quelque chose, à mon avis, il ne se passe pas grand-chose. D'autre part, je vais parler sous l'autorité de Monsieur le curé doyen, je dirais que, certes, on assiste d'une manière générale à une baisse de la fréquentation dominicale, mais une baisse de tout, baisse du nombre de baptêmes, baisse de tout, baisse des vocations, baisse des ordinations, mais il y a quand même un certain mouvement de reprise, pas partout, et Paris à cet égard est vraiment ne peut pas être emblématique de tout ce qui se passe en France, parce que Paris est une ville un peu spéciale, avec beaucoup d'églises, beaucoup de prêtres,
etc. Et puis 25 ans de Lustiger, on peut dire tout ce qu'on voudra de Lustiger, mais 25 ans de Lustiger, ça a fouetté le sang. Hein.
C'est clair, ça c'est absolument clair. Est-ce que vous sentez vous-même une chute continuelle de la fréquentation? Vous direz que vous n'êtes pas non plus un cas généralisable, mais est-ce que vous sentez une baisse générale de la fréquentation dominicale, enfin de l'assistance à la messe dominicale, ou bien une certaine remontée? On remonte de très bas, je l'admets, mais on remonte.
Alors mon cher Daniel, Je ne suis sûrement pas un cas généralisable. Quand j'étais curé de Sceaux-les-Chartres pendant 22 ans, j'ai entendu ça pendant 22 ans. On m'a dit, ah oui, mais c'est très spécial, c'est très particulier. Et j'ai fini par le croire. J'avais des théories très dessus. Mais depuis 6 ans, je ne suis pas curé de Sceaux-les-Chartres, je suis responsable de la pastorale d'un département de banlieue. Enfin bon, c'est la banlieue, bon, Milly-la-Forêt, c'est la banlieue très convenable. C'est pas, on brûle pas les poubelles, on casse pas les mobilettes, c'est évident. Mais j'ai pris un secteur pastoral ordinaire, n'a pas taillé pour moi, qui existait. Je suis resté 6 ans. Qu'est-ce que j'ai vu en 6 ans? Ben, j'ai vu augmenter la population pratiquante. Et c'est tellement loin que les gens viennent ni de mon ancienne paroisse qui va très bien grâce à la Bérode, que je remercie au passage, et à qui je souhaite quand, puisqu'il va quand même pouvoir prendre 10 jours. Les gens viennent pas du bout du monde, c'est voilà. Bon, on ne peut pas dire non plus que c'est tout les héros de la région, puisque il y a l'abbé Lefebvre et l'abbé Lecoq à Fontainebleau et une portée de fusil qui font un travail absolument remarquable. Donc
ce sont des prêtres de la fraternité Saint-Pierre.
Qui sont remarquables, absolument, aussi différents l'un de l'autre. Donc c'est un secteur pastoral normal, avec des confrères normaux, avec des paroissiens normaux et ordinaires. J'ai plus ou moins continué à essayer de faire ce que j'avais fait précédemment, hormis que quand j'étais arrivé à Sceaux-les-Chartres, c'est vrai que la mémoire n'était pas tout à fait morte. Là-bas, je suis arrivé en 79, la mémoire n'était pas tout à fait morte. Là, quand je suis arrivé, la mémoire était morte, enterrée, momifiée, bouffée par les vers, enfin tout. Bon, voilà. On a commencé à faire des choses pas terribles. La liturgie a mis la forêt, c'est possible. Mais ce qui se passe à l'intérieur de l'intelligence et du cœur, c'est une autre affaire. Alors, quelle était la question? Pour moi, la question était très simple. Enfin, elle n'était pas très simple puisqu'elle était alternative. Où je commençais par la liturgie? Et je n'avais aucune chance d'être suivi par mes paroissiens. D'autant plus que j'avais une opposition assez musclée, sur laquelle je n'insisterai pas. Où je commençais par la doctrine? La doctrine entraînant par elle-même le reste. C'est ce que j'ai fait. Alors au moins ça fait des sermons pas compliqués à faire. C'est du catéchisme de base, etc. Et puis petit à petit, on a un peu agrémenté tout ça. Et puis moi je crois énormément à la transmission culturelle de la foi. C'est-à-dire l'énoncé de la foi, et puis tout ce qui est autour. C'est-à-dire tout l'exemple de l'énoncé, la vie des saints et ceci. Bon, voilà. Et puis on a revué un peu la liturgie, on a commencé à chanter un Kyrie, puis un Agnus, puis un Sanctus, puis un Gloria, puis un Credo, et puis voilà, et puis ils ont vu des ornements qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps, et puis ceci, et puis cela. Quand je regardais mon assemblée ce matin, 15 août, l'église était pleine. L'église était pleine. Je suis allé après célébrer la messe au fin fond des campagnes, à Boigneville. Il y avait une centaine de personnes. Ah, je peux vous dire que là, c'est le bout du monde. Hein. Après, c'est le Loiret, quoi, hein. C'est pour dire. Vu les sols, c'est ça. Bon. Une centaine de personnes, pas tout à fait une centaine de personnes. D'ailleurs, en plus, ils ne seraient pas rentrés. Mais Et je dis, là où on va enseigner les vérités, rappeler les commandements, mettre en valeur ce que c'est que le secours des grâces, tout naturellement, pour peu qu'on ne fasse pas chanter des bêtises qui contredisent ce que vous venez de dire, que l'on apprenne un peu l'aspect de la chose, qu'on fasse de nouveau rentrer dans le monde sacré. Il n'y a pas de raison que ça se vide, et j'en appelle à tous les prêtres et tous les curés qui font la même chose que moi. Et ils peuvent dire la même chose. Ils vont faire une carte de France, mais on pouvait déjà la faire en 88. Elle aurait été moins achalandée, mais elle existe une carte de France où les choses fonctionnent. Et l'augmentation des paroissiens, etc. Quand il y a des affections, c'est pour des raisons précises, et il faut les analyser. Mais comme on était habitué à remettre toujours sur les autres, pourquoi y a-t-il une désaffection de la religion? Parce qu'il y a la société de consommation, parce qu'il n'y a plus de familles nombreuses à cause de la faim du monde rural. Parce que tout ça, c'est pas faux du tout. Mais c'est pas suffisant, hein. C'est exactement pareil que la crise des vocations. Pourquoi il y a si peu de vocations? Comment ça, il y a si peu de vocations? Quand on voit dans nos générations ce qu'on a fait pour ne pas en avoir, ah, la vocation. Seigneur, donnez-nous des prêtres, mais pas cela, il n'y avait pas d'autres en magasin, ben non, il n'y en avait pas d'autres. C'est cela qu'il avait suscité. Il faut quand même se souvenir de la chasse aux sorcières, du passage à la moulinette psychologique. Ça, moi, je n'ai pas connu tout ça. Hein. Moi, j'étais bien heureusement en deuxième cycle à Issy-les-Moulineaux où c'était pas la mode. Contrairement à ce qu'on racontait partout chez les tradis, hein, c'était pas la mode. Moi, je n'ai pas connu ça du tout et j'en ai pas souffert du tout. Mais je l'ai vu. À Issy, le premier cycle en particulier. Mais moi, je n'ai pas allé alors. Donc, je n'ai pas suivi. Non, il y a une responsabilité interne qui a été cette espèce de rêve du changement absolu. Un monde nouveau allait venir, il allait être comme ci et comme ça, et voilà comment il faudrait être. Ah ben, le monde nouveau est arrivé, il ne ressemble pas à ce qu'on avait dit, et puis heureusement que le modèle du prêtre qu'on devait être n'existe pas non plus, quoi, parce qu'il serait complètement inadapté à d'où on est. Alors bon, il y a une désaffection, tout ce qu'on voudra, oui, bon, à vrai dire, quand on va dans une église, on voit plus de cheveux blancs et de cheveux gris qu'on voit de cheveux de couleur. Sauf si on va dans les églises tradies. Tiens, comment ça se fait? Sauf si on va chez les charismatiques. Tiens, comment ça se fait? Sauf si on va dans des trucs un peu classiques, comme chez moi. Bon, voilà. Ah, mais comment ça se fait? Il faudrait peut-être s'interroger. Ouais.
Poser la question, c'est y répondre.
Voilà. Bon, en plus, il faut savoir si on parle aux gens qui sont pas là. Or, pendant des trucs, on a parlé aux gens qui n'étaient pas là. Comme ça, les gens qui sont là sont partis sur la pointe des pieds, puisque on n'intéressait pas. À part pour mettre son billet à la quête, hein, là c'est autre chose, là, c'est nécessaire. Il y a tout un ensemble de choses qui fait que, qu'est-ce qu'il va rester de tout ça? Or, je l'ai déjà dit il y a 20 ans à ce micro, je crois, et je le redirai encore, c'était l'émission de que tenait Pierre de Vernejoul, mais à l'époque, quand je le disais, c'était plutôt très mal pris. Mais aujourd'hui, je redirai la même chose. Qu'est-ce qui va rester tout cela? Tout ce qui est le véhicule de la révolution, pour parler court, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais voilà, de la conversion qui est la mienne. Tout ce qui est véhicule de la révolution ne produit d'enfants ni observants, ni pécheurs. Ça pour rassembler 40 000 guignols dans un stade, une fois tous les 15 ans, mais n'importe qui peut faire ça. Mais n'importe qui peut faire ça. Non, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Ce que je me demande, c'est ces enfants-là, quand ils vont revenir à la maison, ces adolescents-là, quand ils vont revenir à la maison, est-ce qu'ils ont un peu de notion de ce que c'est que la religion, de ce que c'est que l'observance, la pratique, etc. Non. Les autres, oui. Les autres ont des vocations. Ah, vraiment, le jeune clergé, très réactionnaire. Ben, évidemment, d'où il sort? Mais il sort de là où il est toujours sorti. Et si on ne l'a pas dévoyé par un certain type de formation, il est forcément, il ne veut pas donner, refuser aux autres ce qu'on lui a refusé à lui dans sa jeunesse. Ah, il faut savoir ça. Il faut que ces choses soient dites. Dites et redites. Bon, on le paye cher, on est marginalisé, bon, on est pris pour des crétins. N'empêche que plus l'histoire avance et plus nous avons raison. Surtout que maintenant, le monsieur en blanc assis sur le trône pontifical ne se prive pas pour le dire.
Alors vous écoutez non seulement la Mèche à nu, mais le libre journal de Serge Becquèche, je le dirige ce soir par des Naviches avec l'assistance de Victoria. Et vous avez des messages, ma chère Victoria? Oui, donc, il y en a des longs, des courts. Oui. Oh là là.
Qu'il s'agisse des pèlerinages, des processions et de bien d'autres manifestations, leur éclipse et leur retour semblent s'inscrire dans la lignée des phénomènes périodiques dans l'univers. Bon. Phénomène périodique. Et puis, ce n'est pas, un auditeur nous dit, ce n'est pas sur la vie de Jésus que la foi chrétienne repose, mais sur qu'en pense votre invité curé. Moi, je lui pose une question.
Oui, je ne comprends pas exactement bien le sens de la question, mais il est vrai que si le Verbe ne s'est pas incarné pour prendre sur lui les péchés du monde et les expier dans le sacrifice de la croix, notre religion est absolument vaine. Or, évidemment, la mort et la résurrection de Jésus, ça repose pas seulement sur sa mort, ça repose sur sa mort et sa résurrection, parce que sans résurrection, on ne peut pas très bien savoir quel est l'objet de la mort. C'est l'objet qui rassemble les chrétiens Et l'Église n'est l'Église que ce qu'elle est rassemblée dans le Saint Sacrifice de la Messe, et le Saint Sacrifice de la Messe n'est rien d'autre que le sacrifice du Christ. Donc il a raison. N'empêche que la vie du Christ est quand même éclairante sur le reste. Voilà.
Encore une remarque d'auditeur. Attends, Victoria.
Je lis direct.
D'accord,
c'est le 15 août. Mais justement, il faudrait faire une prière pour le journaliste italien agressé dans le métro, Birakim, et qui vient de décéder. On veut bien. Delenoë a dit qu'il fallait, au lieu de
prier,
plus de policiers, au lieu de caméras, plus de policiers. C'est nouveau. Mais sur les lieux de l'agression, ce que les jeunes savaient sans doute, c'est qu'il n'y avait pas de caméra. Bon, écoutez, ça c'est un petit peu.
Peut-être,
à côté.
Oui, ben, évidemment, mais on peut prier pour.
On peut pas prier pour
ce journaliste très connu qui est mort, non pas dans l'exercice de son métier, mais agressé dans le métro parisien. C'est quand même vraisemblable, d'ailleurs, c'est qu'en plein 15 août, alors qu'on a dans cette capitale tant de touristes, la sécurité des moyens de transport ne soit pas assumée. Ça, c'est une chose qui est quand même assez troublante. Alors, tout ça m'étonne beaucoup.
J'en ai un long, mais comme on a le temps ce soir.
Ah, mais non, j'en ai pas le temps, parce qu'on a beaucoup de sujets encore à traiter.
Ce soir, nous avons des invités qui pratiquent la méthode Coué. Les églises se vident de plus en plus, c'est pas vrai. Et que les phénomènes.
C'est pas vrai, c'est vous qui rajoutez une
chose marginale. C'est pas vrai. Et que les phénomènes de pèlerinage ressemblent beaucoup aux rassemblements de masse que nous voyons dans. Notamment, par exemple, en France, les défilés techno et les succès des rêves nocturnes, des dingueries nocturnes. 40 ou 50 000, c'est moi ça, excellent. 40 ou 50 000 excités dans la nuit, en rase campagne. Les propos de ce soir ressemblent à ceux de Georges Marchais, quand le communisme faisait encore illusion. Interrogé le soir de la fête du Luma, il annonçait des succès de recrutement, de fidèles, tout à fait illusoires. D'autre part, c'est là le passage intéressant, à mon avis, d'autre part, dans les pays très catholiques, on constate les ravages que font les sectes évangéliques qui inquiètent fort le Vatican et même Radio Courtoisie. On ne se rend pas compte que c'est un virus fort inquiétant.
Monsieur l'abbé, sur les sectes évangéliques,
on s'en rend parfaitement compte. Aussi, il faut pas mélanger les choses. Les sectes évangéliques, vous avez, qui vit-on là-dedans?
Beaucoup de monde.
Les évangélistes, qui, bien gardé, ne doivent pas être une secte, puisque le président de la Fédération protestante de France est un évangéliste, que je sache. Il m'a pas l'air allumé du tout. Hein. C'est un mélange. Alors, que les sectes. Et surtout celles qui ne sont pas repérables, celles qui ne sont pas archivées, celles qui n'ont pas de nomenclature parce qu'ils sont trouvés, etc., soit un vrai danger, que le Vatican soit extrêmement préoccupé, c'est vrai, c'est indubitable. Que dans certains pays très catholiques, je suppose que c'est à l'Amérique du Sud que l'on fait allusion, mais l'information a dû venir en barque. Parce que la situation est un peu inversée. On l'a montré avec le voyage du pape au Brésil. On a trouvé, pas tous les moyens bien entendu, mais enfin, bon, le renversement, si j'ose dire, ou du moins l'arrêt, a déjà commencé. Pour nous, la situation est bien plus. C'est bien ce qu'il faut se dire. Le problème des sectes en France, tout le monde sait que c'est un problème. Chaque fois que les politiques ne savent pas quoi nous raconter, ou chaque fois qu'ils veulent nous cacher autre chose, on est parti pour un coup de secte. Bon, et c'est pas plus mal que l'État soit vigilant vis-à-vis de ça. On va épingler naturellement des sectes qui ont pignon sur rue. Jusqu'ici, d'ailleurs, il y en a qui ont été sévèrement épinglés. Elles existent toujours, hein. On n'a pas pris la solution, on a dit toutes les méchancetés possibles et imaginables, mais n'empêche pas, ils existent toujours. Le danger, ce sont les autres. C'est-à-dire le gourou qui rassemble autour de lui quelques gens, et il y en a un certain nombre qui ne sont pas repérables. Ils ne sont pas repérables. Alors on peut toujours se dire, si ces gens vont là, c'est parce que l'Église ne répond pas à leurs questions. C'est vrai et c'est faux. Parce que beaucoup de gens qui vont là, ils sortent plus de l'Église. Leurs arrière-grands-parents peut-être y étaient, eux n'y sont plus. On voit le 25% des enfants en gros sont catéchisés. Ça fait déjà rire parce que qu'est-ce que c'est que cette catéchisation? On peut toujours se le demander. De point de vue, vérité à croire. Je n'ose même pas évoquer les commandements observés. Quant aux grâces à recevoir, on va 4 fois à l'église dans sa vie et on a tout eu. Voilà. Et si par cas vous n'aviez pas tout eu, si par cas vous aviez raté, par exemple, vous pouvez vous rattraper, vous avez exercice de rattrapage pour le mariage, avec des fictions. Nous ne sommes plus dans un pays catholique. Même si 60% des gens ou quelque chose comme ça disent qu'ils sont catholiques, moi je ne connais de catholiques que ceux qui croient aux vérités révélées, qui essayent d'observer, ou tout au moins qui reconnaissent les commandements et donnés, et qui essayent de recevoir le secours des grâces préparé. Pour le reste, c'est quoi un catholique? Celui qui se bricole la religion un petit feu dans son petit coin? Je vais répondre à quelle question? Je vais dire oui par démagogie profonde ou pour ne pas perdre un client à n'importe quoi? Alors je vais dire oui à la métempsychose, je vais dire oui à la réincarnation, parce que c'est la mode, ça fait joli. Comme ça, ils n'iront pas dans les sectes, ils resteront chez moi. Mais non seulement je les donne, mais je me donne aussi. Bah, c'est le marché.
C'est la secte chez vous.
Et c'est la secte chez moi. Mais si je faisais ça, on m'embêterait moins que ce qu'on m'a embêté jusque-là. Hein. Faut le savoir, ça ne durerait pas aussi longtemps, mais quand même, j'aurais droit. On se souvient, des gars, ils avaient eu droit à des articles de journaux, des photos, des machins, curés qui racontaient n'importe quoi. Bon, bref. Et alors après, il y a quand même un vrai élément de réponse. Il y a des gens qui sortent de chez nous, réellement de chez nous, et qui vont chercher dans les sectes ce que nous ne leur donnons pas. Et qu'est-ce que nous ne leur donnons pas? Ce qu'ils veulent et que nous ne pouvons pas leur donner, je citais déviations comme la métempsychose, voilà, alors sans oublier la bénédiction, la sacralisation de toutes les déviations sexuelles qui peuvent exister, enfin, tout. Alors on vient me demander ça, et je ne suis pas libéral parce que je ne dis pas oui. Bon, il est vrai que je ne suis pas libéral, ça tout le monde vous le dira, parce que je ne crois pas que mes ennemis aient raison. Mais on peut, l'Église ne peut pas faire ça. Elle se tue elle-même, elle perd tout à fait son ordre de crédibilité. Elle est là pour appeler les choses, que ces choses plaisent ou qu'elles ne plaisent pas, il faut qu'elles soient dites. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. On ne devait pas pouvoir le dire non plus en l'an 33 à Jérusalem, sinon on ne voit pas pourquoi Jésus aurait été crucifié. Je ne vois pas pourquoi les apôtres auraient été persécutés. Je ne vois pas pourquoi il y aurait eu des milliers et des milliers de martyrs. Enfin, on n'a jamais pu dire l'Évangile, on n'a jamais pu dire la foi. Pas plus aujourd'hui qu'autrefois, mais voilà, nous sommes là pour la dire. Et puis, alors, quelquefois, ce qu'on attendait de moi, c'était un peu de chaleur, un peu de réconfort, un peu... Alors ça, je peux toujours essayer de le donner. Mais dans la limite où celui qui le reçoit veut entrer en communion. Et non pas être un client, sinon il n'y a qu'à faire du yoga. Et nous pouvons faire la dynamique de groupe. Vous savez, depuis 2000 ans que nous existons, la dynamique de groupe, on doit savoir faire. Hein. Ça n'a pas une affaire très compliquée. Mais le problème de l'Église, c'est une communion de foi, c'est une communion de vie. Si je viens comme un client de supermarché chercher un article ne rien donner, ne pas me donner par la suite, ne pas entrer en communion, alors c'est une chose pas possible. Or, l'homme d'aujourd'hui ne veut pas entrer en communion. Et l'on sait bien comment la secte fait la communion. Elle le fait par suppression de la liberté, par sujétion absolue de la personne. Elle devient prisonnière. Elle ne peut plus s'en sortir. Psychologiquement, on lui met des chaînes telles qu'elle ne peut plus partir. La belle Église, c'est pas ça. Sinon, on saurait le faire. Hein. Depuis le temps qu'on existe, on est assez intelligent quand même. On saurait le faire. Or, non. Alors, que ça soit un danger, c'est vrai. Mais c'est un danger pour le monde civil. Bien plus que pour l'Église. Et en fait, ces gens, on ne nous les ravit pas. Ces gens ne nous les ravit pas. ils sont déjà partis. Ils croient être là, mais ils n'y sont pas. Ils croient être chez nous, mais ils ne sont pas. C'est une espèce de modèle de l'antéchrist, quoi, en quelque sorte, qui sort de chez nous, selon ce que dit Saint Jean. Alors, il faut mettre les choses à leur place, parce qu'après tout, pour faire court et un peu provocateur, si c'est parce qu'on a changé la liturgie que les gens vont dans les sectes, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas chez le févriste? Quel rapport il y a entre les sectes et le févrisme? Rien, à mon avis. Ou bien pourquoi est-ce qu'ils vont pas dans quelque chose qui se rapprocherait plus de l'enfermement, encore que c'est à voir, pourquoi ils vont pas à la contre-réforme catholique? Il n'y a pas de lieu, pourquoi ils vont pas chez quelques galicans ou je ne sais quoi, qui sont capables de faire tout? En plus, c'est à la carte. Baptisez votre chien, faites baptiser votre chien. Voilà, c'est pas très grave, on vous fait tout. Vous voulez faire absoudre votre grand-mère qui est morte depuis 40 ans, il n'y a qu'à demander. Pourquoi? C'est un autre problème, voilà. C'est un autre problème. Alors, quand il s'agit du mouvement évangéliste en France, qui est en progression? C'est en réelle progression.
Passer de 40 000 à 400 000 membres en 10 ans.
Moi, je vous demande alors pourquoi. D'abord, parce qu'il y a une rigueur de l'enseignement, ce que nous n'avons pas. Ensuite, il y a une vraie vie communautaire, ce que nous n'avons pas. Et quand c'est une vraie vie communautaire, c'est une vraie vie d'assistance, c'est une vraie vie de secours. Et ensuite, il y a une véritable exigence de morale personnelle, ce que nous avons
un peu.
Voilà. C'est-à-dire exactement ce que les curés n'enseignent généralement pas. Toujours, oui, mais cependant, il y a qu'à Faucon, mais alors, pas toujours, mais si, mais non, vous voyez, bref, le casuisme à l'état le plus pitoyable qui soit.
Ces explications sont assez claires. Alors, je voudrais maintenant passer à un autre sujet. Si vous voulez bien parler un peu de l'épiscopat, mais vous allez voir, c'est d'une manière un peu subtile.
Ah bon?
Eh oui, parce que j'avais été attiré le mois dernier par une étude d'un écrivain théologien américain que vous connaissez sans doute, monsieur l'abbé. C'est Georges Végel.
Ah ben bien sûr.
Très connu. Connu surtout pour la bibliographie, entretien qu'il a fait avec Jean-Paul II qui s'appelait « Entrer dans l'espérance ». Il vient de faire un article très intéressant qui a été publié en Amérique. Désolé, mais on va parler français ce soir.
Ah, merci.
Qui s'appelle la crise épiscopat américain, la crise démographique qui vient. Elle a fait une étude très intéressante. Il suffit de prendre les dates de naissance et puis la date d'arrivée à la retraite et de se projeter de façon tout à fait linéaire dans l'avenir pour s'apercevoir. Il s'en est aperçu que d'ici à 2025, c'est pas très loin, on est en 2007 déjà, quasiment plus de la moitié de l'année 2007 est faite. En linéaire, l'épiscopat américain devrait être renouvelé à 85%. C'est pas mal en 18 ans, 85%. En linéaire, sans compter évidemment les évêques qui ont les accidents de voiture, les évêques qui pourraient mourir, qui pourraient démissionner avant l'âge fatidique, ou qui pourraient être démissionnés, Ça existe aussi aux États-Unis, ça existe aussi aux
États-Unis. Nous avons vu autrefois que ça existait aussi.
Oui, ça existe aussi en France. Et alors, pourquoi pas essayer de faire la même petite étude pour la France, de voir qu'est-ce que ça donnerait. Alors, c'est une chose absolument linéaire que j'ai faite. J'ai pris absolument tous les évêques du diocésain. J'y ai inclus, y compris l'évêque pour la mission. La mission de France.
Oui, bien sûr.
Mais je te dis un jour ce que c'est que la mission de France, j'ai pas très bien compris à quoi ça sert ce bidule aujourd'hui.
Mais l'intuition était absolument géniale. C'était,
oui.
Il faut chrétien nos frères. Donc dans le grand mouvement de l'action catholique des années 30. Et puis après, il y a eu France pays de mission.
Oui, pendant
et à la sortie de la guerre, et la mission de France, c'est la prise en compte, si je peux ainsi parler, de cette situation de France pays de mission, et c'est donc une société prête enfin je sais pas, non, canoniquement je vais dire une bêtise là, parce qu'il y a un évêque,
oui, un évêque.
Quoi, une prélature personnelle, enfin bon, vous remarquerez qu'une prélature personnelle au Puisaye c'est très très mal, mais
pour la mission de France, c'est très,
très bien. Bon, enfin, l'utilité qui m'échappe, moi je ne suis pas canoniste. Dieu merci. Donc c'est la prise en compte de cette situation et la formation donc de cet ensemble particulier pour aller porter la mission là où précisément la France est un pays de mission. Alors ça a donné un certain nombre de prêtres du mouvement ouvrier et de choses semblables. Moi j'appartiens à un diocèse où il y a quelques prêtres de la mission de France. Et je dois dire que c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'affection. Je ne suis pas toujours d'accord, ni avec leur bulletin de vote, ni avec quelques-unes de leur prise de position, mais c'est des gens qui méritent tout à fait le respect et l'admiration, mais qui vont porter la mission là où il faut la porter. C'est-à-dire, plutôt que d'aller aboyer sur la place du marché où personne ne vous écoute, ils travaillent, il y en a un certain nombre qui travaillent dans les milieux scientifiques, dans des choses comme ça. Non, sans faire aussi un peu de pastoral ordinaire par ailleurs.
Alors, je me suis livré une petite étude que j'ai arrêtée au 1er août, hein, parce qu'on ne peut pas faire ça au jour le jour. Et alors, on s'aperçoit qu'en France, tous les évêchés territoriaux sont actuellement pourvus, y compris l'évêque aux armées et donc l'évêque à la mission de France. On observe toutefois que deux évêques ont dépassé l'âge canonique, actuellement en France, donc ils ont déjà donné leur démission depuis longtemps. C'est Jean-Charles de Foix à Lille et Hubert Copenrath à Papeete, vous me direz Papeete. Et puis tout, les diocèses territoriaux,
c'est bien rien.
D'ici à la fin de l'année, 5 évêques devront remettre leur démission au pape. Bayonne, Lescar en Léron, Bourges c'est fait, Créteil, Quimper et Léon, Basse-Terre, deux évêques auxiliaires ont été évêques récemment, mais n'ont pas été remplacés. Alors ça nous laisse, on a à peu près en France, donc ça nous fait 113 évêques, dont une centaine de territoriaux, et
de résidentiel,
ça veut dire que d'ici à 2025, donc c'est quand même c'est très près, hein, c'est plus en linéaire, hein, sans compter ceux qui acquis un accident malheureux pourrait survenir, plus des trois quarts des évêques français devront être renouvelés.
Tant mieux.
Alors, oui, ça c'est un commentaire. Je voudrais un peu plus développer, parce que ça fait penser à des histoires, mais je voudrais un peu plus développer. Qu'est-ce que vous en pensez, ça?
Moi, je pense que... Parce que nous sommes français et parce que nous avons la tête près du bonnet, nous sommes souvent très injustes et très envers nos évêques et nous leur demandons souvent des choses qu'ils ne peuvent donner avec la meilleure volonté du monde et que c'est la pire des situations que d'être évêque. Ceci étant, s'ils ne voulaient pas l'être, ils avaient qu'à refuser. Donc, je vais pas faire d'anti-épiscopalisme primaire. Parce que ça n'amène à rien, ça nous ferait plaisir, mais ça n'amène à rien, et c'est en tout cas pas une réponse à la question. En sachant cela, d'ici 20 ans, 18 ans, l'Église va passer un certain nombre de seuils. Ce qu'on la voit faire régulièrement, allez, depuis le jubilé de l'an 2000 pour faire court, et puis ça fait pire, on voit les choses changer. Le pape Benoît XVI, en raison de son âge, n'a pas de raison d'espérer un pontificat qui excéderait une dizaine d'années. Il est parfaitement décidé à faire évoluer les choses. Nous le voyons. Il est patient, il est endurant, il est déterminé. Et nous voyons bien depuis... un an maintenant, qu'il est bien capable. On change une personne avec beaucoup de discrétion quand c'est nécessaire. Il fait pas de bruit si c'est pas utile. Changer un responsable ici, un homme là, un service ici, faire deux mots du proprio, enfin des choses comme ça. Si bien que les évêques vont se trouver dans des situations qui seront différentes, pour ne pas dire contraires, à celles qu'ils avaient lorsqu'ils ont été nommés. Par exemple, imaginez un évêque. Je pense que c'est un cas d'école que je raconte. Ça m'étonnerait que ça ait jamais existé en vrai. Encore que, un évêque qui s'engage à ne pas céder sur la liturgie traditionnelle au-delà d'un certain seuil, et qui engage toutes ses forces, toute sa pensée, tout ça, et qui tient le coup. À partir du 14 septembre suivant, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, alors, bon, ça c'est un cas gros.
Il avait des erreurs d'estomac, il va avoir un gros ulcère.
Ouais, ou alors il va résister. Bon, voilà, en fait, oui. La question est de montrer que les choses changent. On n'a pas l'impression que Benoît XVI fait grand-chose. Parce qu'il ne veut pas donner cette impression. Le cardinal Ratzinger et Benoît XVI, c'est le même. Hein. On l'a connu avant, on le connaît maintenant, c'est le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé d'idée non plus, contrairement à ce que d'aucuns croyaient. Il avance à petits pas. Il travaille à coup sûr. Et évidemment, les choses changent. L'esprit des choses ont changé. Le discours entre la continuité et la rupture. C'est un renversement copernicien, etc. Donc, l'évêque, soit il était prophète, et il dit, mais c'est ce que j'avais toujours dit. Soit il est périndé à cadavère, on lui dit, allez là, il va là, on lui dit de faire autre chose, il fait autre chose. C'est admirable. Mais si vraiment il avait une vraie conviction, et qu'il se soit trompé, qu'il était l'homme du moment ou l'homme du passé, et pas l'homme de l'Église. Ça peut arriver, je crois. Je ne sais pas si on pourrait citer des exemples, mais il me semble que ça peut arriver. Et c'est donc tant mieux que ces gens-là ne restent pas des éternités en place, parce que ça les mettrait eux-mêmes dans des situations épouvantables. Et je comprendrai très bien, mais croyez-moi, ça n'arrivera pas, qu'un évêque dise, écoutez, non, moi je peux aller jusque-là, mais là, je ne sais pas le faire, je ne peux plus. Je démissionne.
Il y en a un qui a menacé, je ne sais plus lequel en France, il y en a un qui a menacé, oui, mais ce sont des menaces verbales, comme on dit, n'est-ce pas? Menaces verbales. Ben, puisqu'on est sur ces questions épiscopales, on va, et que vous faites allusion, au deuxième motu proprio du Saint-Père, Summorum Pontificum, ben, nous allons un peu en parler. Et je vais vous faire réagir sur un cas concret. C'est le cas d'un évêque, mais ce n'est pas un évêque français. Hein. Comme ça, on est tranquille, on ne risque pas de faire de la peine à nos nombreux auditeurs épiscopaux. Il s'agit d'un évêque allemand, du diocèse d'Augsbourg, qui s'appelle...
Ah.
Augsbourg, oui.
C'est celui du Grasbad.
Voilà, et ben, il s'appelle Walter Mixa.
Mm-hmm.
Alors lui, il a interprété le motu proprio de façon, donc le motu proprio qui libère la messe dite traditionnelle, c'est-à-dire la forme extraordinaire, désormais forme extraordinaire du rite unique, etc., que je trouve extrêmement intéressant comme concept linguistique. Et voilà ce que les conditions préalables pour célébrer dans le rite extraordinaire selon Mgr Walter Mixa. Je dois dire que j'avais vu cela sur, donc c'est une information sur, j'avais vu sur un forum, le forum catholique d'ailleurs, où j'avais tout. Et je suis allé chercher la source. Vous pouvez évidemment en allemand, muni d'un gros dictionnaire en ligne allemand, j'ai réussi quand même à voir que le résumé qui en était fait là était tout à fait juste. Et je tiens à féliciter d'ailleurs celui qui a posté ça en ligne. Il se reconnaîtra, ses initiales sont WW.
C'est pas les amiens.
Alors, LanceZVW.
Ah bon, pardon.
Volkswagen. C'est un très bon copain que j'ai reçu déjà ici. Voilà donc les conditions pour célébrer la forme extraordinaire du rite latin dans le diocèse d'Augsbourg. Le groupe stable dont il est fait question
devra,
veut dire au moins 25 personnes. Deuxièmement.
Je serais curieux de savoir d'où il sort. Le groupe stable veut dire 25 personnes. La synagogue, c'est 10 personnes.
Voilà. Vous allez voir. Bon. Là, un groupe, un quotus en latin, c'est deux. Hein. C'est pas compliqué. Passons. Groupe stable, au moins 25 personnes.
Un quart de ronde.
ces 25 personnes, au moins, doivent habiter dans la paroisse. Il sera nécessaire d'utiliser le lectionnaire Paul VI, même dans la messe Saint Pie V. Il faut que ces personnes acceptent les décrets de Vatican II. Il faut que le prêtre sache le latin, avec examen préalable. J'aimerais qu'on en fasse passer un
qui va lui faire passer.
C'est absolument admirable. Voilà. Alors, j'aimerais vous faire agir. Alors, je ris, c'est drôle. Parce que c'est drôle, parce que tout ce qui est dit là, c'est pas dans le motu proprio. Donc c'est exorbitant du droit, évidemment, le souverain pontife, c'est lui qui est le juriste suprême de l'Église, c'est lui qui détermine la loi.
Il y a un droit des fidèles,
oui, un droit des fidèles,
qui a été déterminé après Vatican II, qui est une des nouveautés du code de droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II. Il y a un droit des fidèles, ça ne respecte pas le droit des fidèles. Maintenant, j'aimerais que les fidèles, les prêtres et les curés en particulier aussi, qui sont aussi fidèles d'ailleurs de temps en temps, connaissent le maniement du droit administratif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un recours? Là, il y a quelque chose qui manque. Mais je ne doute pas qu'on va l'apporter, parce que c'est rare que l'on fasse, dans le motu proprio, le pape fait directement mention du droit des fidèles. C'est rare qu'on en cause du droit des fidèles, où on l'applique rarement. C'est une bonne idée, c'est mon avis, ça tourne autour des canons de 115 ou quelque chose comme ça. C'est dans ces eaux-là, mais encore une fois, moi je suis pas canoniste, mais c'est dans cette partie-là du code. En plus... Ça, il a vite grâce basse sur son truc. Des messes de Saint-Pie-V, il a vite grâce basse en long, en large et en travers. Et le fondateur du séminaire de vite grâce basse, c'était un cardinal qui s'appelait Ratzinger, je crois
aussi.
Je crois bien. Comme je dois en être le professeur.
Je sais pas ce qu'il est devenu, mais.
Je dois en être le professeur le plus ancien. Quand j'y vais, c'est une maison que je connais un peu, quoi. Bon, 25 personnes, d'où est-ce qu'il sort ce 25 personnes? Il n'existe nulle part, pas de notion. En tout cas, s'il était fidèle à la tradition, il saurait que dans la synagogue, il faut 10 personnes. Au moins 10 personnes. Alors il y a la notion de paroisse territoriale. Là, je sais. En France, nous, ça n'existe pratiquement plus, la paroisse territoriale. Toutes les paroisses sont un peu d'élection. Bon, elles sont un peu d'élection. Et on ne s'en trouve pas plus mal. À vrai dire, on ne s'en trouve pas plus mal. Mais qu'est-ce que ça signifie, le territorial? Si je vais à la messe dans une paroisse, est-ce que je n'en suis pas paroissien? C'est petit esprit. Et voilà un truc qui ne pourra pas appliquer, qui va être dénoncé tout de suite.
Tout de suite.
Qu'est-ce qu'il a besoin? Il sait quand il le fait, parce que c'est un garçon intelligent, enfin tout permet de le supposer, puisque c'est un évêque. Il sait quand il est... qu'il se met dans une situation pénible.
Pourquoi le fait-il?
À part le plaisir de montrer qu'il s'oppose à Rome et qu'il est le chef chez lui, je vois pas beaucoup l'intérêt. N'empêche que vous allez voir naître, et pas seulement en Allemagne, vous allez voir naître toutes sortes d'empêchements, toutes sortes de choses. Enfin, vous vous rendez compte que le curé d'Ars aurait eu bien du mal à célébrer la messe Saint-Pie-V, qu'il n'a d'ailleurs jamais célébré puisqu'il est célébré dans je veux dire, qui va faire passer l'examen?
Et vous dire si vraiment... Bon, on est un peu dans le bizarre. Mais pour revenir à des choses plus pratiques, parce que en fin de compte, cette position de Mgr Walter Mixa, ces idées doivent tourner aussi dans la tête d'assemblées d'évêques qui sont en France.
Bien sûr,
comment empêcher une chose qui est obligatoire?
Il y en a quand même un, et pas des moindres, qui a raconté que le motu proprio ne s'appliquait pas à la France. Le même qui nous avait raconté que les derniers textes liturgiques publiés par Jean-Paul II et celui publié par Benoît XVI ne s'appliquaient pas à la France. Bon, c'est toujours la même chose. Bon.
Comment expliquer ça?
Je ne tomberai pas dans le piège de l'antiromanisme. C'est parce que ça, c'est faux. On reproche aux évêques français d'être gallicans. C'est complètement faux. Ils le sont peut-être un peu à la rigueur, à la manière de Napoléon. On a très en arrière-fond, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'il y a deux notions, deux ecclésiologies, si je puis dire. Celle qui ne nous plaît pas et celle qui nous plaît en quelque sorte. Je veux dire, bon, il y a deux notions des choses, mais les deux notions des choses, elles sont aussi romaines et pontificales l'une que l'autre. C'est bien pour protéger ce qu'ils ont cru et qu'ils croiront jusqu'à leur dernier souffle comme l'absolue vérité, c'est Hitler dans son bunker, hein, qu'ils font ça. Ils ne le font pas par pure méchanceté. Ils le font parce qu'ils croient qu'ils sont dans le vrai et que les autres sont dans le faux. Et mon Dieu, ce pape, est-il dans le vrai, est-il dans le faux? Écoutez, moi quand j'étais au séminaire, je vous dire que c'était pas juste ça, j'ai entendu des gens dire, à propos de Ratzinger, quand il n'était pas prisonnier, il disait que, quand il n'était pas stipendié, il disait que, c'était il y a 30 ans, hein, c'était il y a 30 ans, et qu'on vienne me dire ici qu'un certain nombre de professeurs, pas ceux que j'ai eus, qui sont évêques ou archevêques aujourd'hui, n'ont pas une fois dans leur vie dit une chose pareille dans un cours de théologie, pourrait faire un procès contradictoire là-dessus. Alors on pourra me dire, oui, mais ils ont changé, là, li, là, là. N'empêche que, même avec des ajouts, même avec des restrictions, même avec des recentrages, on vit toujours dans la même idée. Et le Ratzinger, plus il est le contraire d'eux, plus il dit le contraire d'eux. Est-ce que vous avez remarqué que dans le fameux motu proprio et dans la lettre admirable qui l'accompagne, il n'est absolument pas question de conférence épiscopale? C'est troublant. C'est très troublant.
Pour un texte qui a été tellement travaillé et sur lequel les évêques français et allemands ont tellement apporté de grains à moudre.
Oui, ça, c'est l'échelle de Jacob à côté, c'était rien. Là, on a eu un véritable ventilateur européen. Mais voilà, et pourquoi ils font ça? Mais parce que les autres. Alors, soit qu'ils se perdent, c'est pas très très grave, puisqu'ils sont toujours rattrapés au tournant, puisqu'il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus rien. Bon. Mais surtout, ils empêchent l'avenir. Car l'avenir ne peut avoir que les couleurs qu'ils ont. Parce qu'on les a vus beaucoup pleurer à l'enterrement du cardinal Lustiger. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le conservatisme de Lustiger? Sur un certain nombre de choses, sur d'autres, il ne l'était pas.
C'est la raison pour laquelle il n'a jamais été président de la conférence épiscopale, soit dit par parenthèse.
Bien sûr.
S'il avait été tellement aimé de ses confrères évêques, il aurait été porté au moins une fois à la tête de la conférence épiscopale, ce qu'il n'a jamais été. Ouais. Il faut croire qu'il n'avait pas que des amis parmi ses confrères.
Que des amis, et puis le pauvre garçon, il a fait promouvoir des types qui l'ont trahi à peine ils étaient arrivés sur leur siège. Bon, ça lui est arrivé, bon. Mais voilà, si ça, je ne sais pas si je réponds bien exactement.
Oui, à peu près à la question, mais moi je voulais savoir sur sur ce motu proprio, la libérant la messe, la forme extraordinaire du rite. Latin, comment vous classez ce texte? Parce que moi il me semble, plus je le relis et plus je vois les implications que ce texte a, plus je m'aperçois que c'est un des très grands textes, sinon le plus grand texte de cette première partie du pontificat de Léon XVI.
En tout cas, la lettre qui l'accompagne. Oui, parce que il faut quand même pas regarder le pape pour ce qu'il n'est pas. Au risque de mécontenter quelques auditeurs auxquels je demande pardon, mais sans contrition. Le pape n'est pas un traditionnaliste, au sens où nous l'entendons, nous. C'est-à-dire, le pape n'entend pas que la messe de Saint-Pie V, pour parler le langage d'avant le mois de juillet, que la messe de Saint-Pie V devienne la messe normative. Pas du tout ça, le but du pape. Le but du pape, quoi qu'en dise un certain nombre d'évêques français, c'est la réforme de la réforme. Donc, quand on regarde cette lettre aux évêques, ce qu'il y a en filigrane et de manière constante, c'est l'appel à la réforme de la réforme. Pourquoi la réforme de la réforme est-elle nécessaire? Qu'est-ce que vous avez fait de la réforme liturgique? Qu'est-ce que vous avez toléré? Des choses insupportables.
À la limite du supportable.
C'est ça. Et la pensée... alors moi je peux parler de la pensée de Karl Ratzinger, je ne peux pas parler de la pensée de Benoît XVI, mais la pensée de Ratzinger était... que les deux rites restassent vivants, et lui est capable de célébrer l'un et l'autre, qui a vu une fois dans sa vie Ratzinger célébrer la messe de Saint-Pierre-Panel, c'est ce que c'est qu'un rite vivant, quoi, et intérieur, et prier, etc. Il n'est pas le seul, heureusement et Dieu merci. C'est que les deux rites soient vivants et que l'un informe l'autre. De sorte que, si c'est possible, dans un temps lointain, on arrive à un seul rite, une seule forme. Voilà. Moi, je vais vous dire, la chose qui me choque le moins, papier de Mixa, là, dans le mixage de Mixa, ce qui me choque le moins, c'est qu'il demande que les lectures soient sélectionnées de Paul VI. On pourra me dire tout ce qu'on voudra. Le lectionnaire de Paul VI est bien plus riche que le lectionnaire de Pie V, qui est pitoyable, bon, sauf le cercle des dimanches, mais qui est très ancien. Le lectionnaire possible n'est pas une aberration, c'est pas si mal que ça. C'est bricolé. Moi, je le cite souvent. Année A, dimanche de Carême, impeccable lecture correspond à la préface correspond au dehors. Année B,
indiscutable.
Ça commence à aller. Année C, c'est n'importe quoi. Ah, parce qu'il fallait aller vite, vous vous rendez compte, l'avenir est à nos portes. Ah là 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 là. Alors il fallait aller vite. Donc, bon, on a bricolé, etc. Bon. Mais il y a des choses qui sont quand même. Bon. Quand vous vous tapez 4 fois dans la semaine l'évangile du dimanche, parce que ce sont des féries qui succèdent, c'est vrai que les évangiles sont très riches et qu'on peut méditer 100 fois. Je vais le prêcher tous les jours comme je le fais. Mais, bon, voilà. Mais, bon. Il faut quand même se dire que ça, dans la pensée du pape, il faut que les deux s'enrichissent l'un l'autre, s'interpellent l'un l'autre, s'informent l'un l'autre, de sorte qu'on arrive à une vraie liturgie.
Moi, je vais vous dire une petite remarque que je me suis faite, comme quoi il faut toujours réfléchir. Première lecture. Le pape fait allusion, alors je ne sais plus si c'est dans le texte du Motu Proprio, dans la lettre d'accompagnement, à la possibilité d'intégrer le nouveau lectionnaire dans la liturgie traditionnelle.
Est-ce qu'il fait vraiment
Il dit
quelques préfaces.
Alors, il dit quelques préfaces pourraient être ajoutées à la préface unique de l'ancien missel. Ma première réaction a été un peu de recul. Et puis après, il y a quelque chose qui me semble intéressante, c'est que jusqu'à présent, la forme ordinaire du rite unique était congelée, c'est-à-dire on ne pouvait pas y toucher. Elle était une liturgie qui avait été vivante, voilà, et qui était devenue morte.
En 62.
Voilà.
Il n'y a pas d'évolution homogène.
Ce que dit le Saint-Père, qui est le grand pontife aussi de la liturgie, c'est que il faut aussi faire vivre cette liturgie, la réformer, la restaurer autant que faire se peut par des petits ajouts, comme on fait, je dois le dire, tous les papes depuis au moins Saint Pie V, lequel ayant canonisé par sa bulle ad vitam aeternam le missel, n'empêche que dans les quelques années qui ont suivi, même l'année même qui a suivi la promulgation, il commençait déjà à changer des choses, des prières, machin. Bon, c'est tout à fait naturel. Et puis il parle aussi de quelques saints, etc. Je trouve ça vraiment. Il ne parle que du lectionnaire et que des préfaces. Il ne parle pas encore du sanctoral, hein. Lectionnaire et préface.
Si, il parle du sanctoral. Devront, pourront et devront.
Pourront. Oui, alors il laisse ça à la commission Ecclésiale. Mais il en parle. Alors, j'ai malheureusement pas mon édition.
C'était le lectionnaire qui m'avait. J'ai pas percuté, Paul. Lectionnaire.
Il me va.
Enfin, moi, c'était.
Ce qui est important, ce qui est important dans cette affaire, c'est de voir que le pape, qui est le souverain pontife et qui est le patron de la liturgie, veut redonner à ce rite dit traditionnel une vie, une existence,
oui,
pour
voilà,
qu'il continue à se développer.
Et la question est, est-ce que les fidèles comprendront cela?
C'est ça qu'il faut expliquer.
Parce que, forcément, dans la situation d'assiège où ils étaient, de situation terrible, enfin, c'est quand même...
C'est monstrueux.
C'est la situation qu'ils ont eue pendant 40 ans, c'est une situation monstrueuse, personne ne pourra réparer ça. Évidemment, on s'est dit, on ne bouge rien, pas une virgule, pas un iota, on reste fidèle. est-ce qu'on va comprendre qu'une autre époque commence ? C'est-à-dire où ce rite-là, on le ressuscite, en quelque sorte. Où cette forme extraordinaire, elle doit vivre. Et, évidemment, s'améliorer. Alors, moi, je ne crois pas beaucoup au décret là-dessus. Je crois, je suis comme l'abbé Barthes. Enfin, je ne voudrais pas le faire parler alors qu'il vit.
Il gémisse dans son lit de souffrance.
Voilà. Je suis comme l'abbé Barthes. Je pense que la pratique vaut mieux que la théorie. Et que la théorie naîtra de la pratique. Ceci étant, moi, j'ai passé presque un quart de siècle de mon existence à travailler sur ces choses-là. Je fais assez peu de théorie, j'ai fait assez de pratique. Mais ce que le pape suggère là, c'est ce que je suggérais en 88, autant me consulter encore, parce que depuis il y a longtemps qu'on ne me consulte plus, puisque pour ces choses-là, on ne consulte que les gens qui n'y connaissent rien. Je connais un diocèse, pas loin d'ici, où l'on veut faire célébrer la messe Saint-Pie V à des gens qui l'ont jamais vu de leur vie, qui l'ont jamais entendu, qui savent même pas trois mots de latin, et alors on dit, mais oui, mais c'est la grâce d'État, il faut célébrer, hein, dans une église où il n'y a évidemment pas d'hôtel de haut peuple, enfin bon, c'est fou du monde, pas bon, j'espère que c'est transitoire, mais voilà, il faut faire vivre la forme extraordinaire, et... Tout n'est pas bien à prendre, évidemment, dans la forme ordinaire, mais il y a un certain nombre de choses qui sont eues, parce qu'en fait, il y a les préfaces dont parle le pape.
Alors, je vais lui prendre, on va, citons Saint-Père.
J'ai entendu ça, c'est
dans le motu proprio à l'article 6, il est dit, dans les messes, selon le missel du bienheureux Jean 23, célébrer avec le peuple, les lectures peuvent aussi être proclamées en langue vernaculaire.
Pas du tout pareil.
En utilisant des éditions reconnues par le siège apostolique. Pas les éditions, des éditions. Ça veut dire que d'autres pourraient aussi venir. Hein.
Alors, excusez-moi, mais les éditions reconnues par le siège apostolique en langue vernaculaire, c'est celles qu'on se subit et depuis 70 et depuis 50, je ne sais plus combien. Elles sont aussi mauvaises les unes que les autres.
Et dans la lettre d'accompagnement, c'est une petite précision. Alors, il dit, votre charité aux évêques, votre prudence pastorale serviront de stimulant et de guide pour perfectionner les choses. D'ailleurs, les deux formes d'usage du rite romain peuvent s'enrichir réciproquement. Il ne prend que l'ancien missel. C'est-à-dire que l'autre, dans l'ancien missel pourront être et devront être insérés les nouveaux saints, vous avez raison, et quelques-unes des nouvelles préfaces.
Oui, qui sont en fait des préfaces léonines anciennes.
Oui, c'est très
bien. Il faudra peut-être retraduire. Parce que quand même...
Mais là, il faudra les prendre en
retard. Il faut aussi savoir qu'en France, en tout cas, et dans les pays francophones, nous avons une liturgie retaillée. C'est-à-dire qu'on ne célèbre pas la messe de Paul VI.
Il y a beaucoup
de trucs de Paul VI, sûrement, mais avec des traductions mal fichues, etc. Moi, je veux dire, fait de vie, comme on disait à l'Action catholique autrefois, où je n'étais pas. J'avais l'habitude, autrefois, de mettre la prière, par exemple, la collecte de la messe officielle, puis dans un cadre, le texte latin et la vraie traduction. Généralement, pas grand-chose à voir. Et puis, je disais le vrai texte, donc on y était. Voilà. Quand j'arrive dans ma nouvelle paroisse, je dis le vrai texte, et une religieuse s'étonne de ce que je lise les prières de la messe de Saint-Pie V. Voilà.
Ça, c'est vraiment...
Et on a des traductions. Table, la traduction de l'Orate Fratres, il n'a pas changé l'Orate Fratres.
Non, il est le même.
Quand on voit ce que ça donne en français, ça n'a rien à voir. On vit au pays de la bricole. Les Français n'ont pas le missel de Paul VI. Et tous les abus qu'ils vont dénoncer pour contrer ce que je viens de dire, je crains que ça ne soit pas dans le missel de Paul VI.
C'est important. Alors, ceci dit, donc, là, le pape dans l'encyclique, dans le motu proprio, et ainsi que dans les accompagnements, dit les réformes possibles pour l'ancien missel, pour le missel dit de Jean 23, mais cela laisse évidemment parfaitement ouvert, encore ce n'était pas l'objet du motu proprio, ni l'objet de la lettre, toutes les rectifications, les modifications, les rénovations, la réforme de la réforme, elle est en filigrane dans ce texte, ça me semble...
C'est, à mon avis, la conviction la plus profonde du pape. Même si un certain nombre d'évêques ont raconté le contraire. en citant d'ailleurs un texte finalement coupé à la manière d'Anastasie, une phrase que le pape dit, ou a dit, ou aurait dit, bon voilà. Mais c'est sa conviction, et sa conviction depuis toujours. De sorte à retrouver le sens du sacré, ni plus ni moins. Voilà, la vie intérieure, c'est-à-dire ce que, il le dit très clairement dans sa lettre, ce que le mouvement liturgique d'autrefois avait acquis aux fidèles qui l'avaient suivi. Parce que c'est quand même pour une fois, c'est pas des vieux scrogneux, obstinés et méchants qui veulent la messe de Saint-Pie-V, c'est les héritiers du mouvement,
le grand mouvement liturgique.
Ah, mais vous imaginez pas le scandale. Enfin, j'en connais, heureusement qu'ils sont morts avant d'avoir lu ce texte. Bon voilà, et puis après c'est des petits jeunes. C'est quand même extraordinaire. Parce qu'il faut quand même bien se dire que les gens qui ont milité pour garder la messe de leur enfance en 1970, ils sont plus très frais, ça c'est dire. Ou alors, ces gens-là ont des moyens de conservation qui n'échappent. Parce que quand je vois une assemblée traditionnelle, je vois une bonne majorité des jeunes couples, d'enfants, de ceci et de cela.
Monsieur l'abbé, on aurait beaucoup encore de discussions, il y a tellement d'autres sujets, mais on va se revoir avec, j'espère, notre ami Barthes quand il sera remis sur pied, de telle sorte qu'on puisse faire un grand débat sur d'autres questions qui nous intéressent.
Mais pour les gens qui voudraient rentrer à l'église, qui ont quitté, parce que ça dure depuis 40 ans tout ça.
Oui.
Hein. Bon, alors, quand on va à l'église maintenant, qu'on essaie de rentrer en ayant entendu les propos, en ayant entendu parler du motu proprio, on trouve exactement la même chose. Et le catéchisme, quand est-ce qu'il revient?
Mais c'est ça le fond de la question. Puisque on parle de l'ex-prédindi.
Moi, je vois vraiment un parallélisme entre l'école et l'église. On dit, les enfants, ils savent plus lire. Bah oui, on leur apprend. On va peut-être leur apprendre. Ouais. Eh bien, il faudrait aussi, pourquoi les gens désertent l'église? D'abord, aux petits, on leur a pas appris. Et puis, aux plus vieux, il faudrait peut-être aussi leur apprendre à participer à la messe et pas à assister à un spectacle, d'une part. Et puis alors moi, il y a une chose dont je voudrais qu'on parle, c'est les cantiques. C'est les chants à l'église.
Ah, les horreurs.
Bah oui, mais on ressort de l'église.
C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas beaux. Mais il y en a tellement que, il y en a quelques-uns qui sont pas mal, mais il y en a qui ne sont pas beaux. Mais, monsieur l'abbé,
dans les anciens, il faut dire que... Il y avait tout.
Il y avait des jolies choses.
Je vais vous dire, comme je ne suis pas libéral, mais patient... il m'arrive de laisser à quelques laïcs de temps en temps le droit de dire les cantiques, quelques-uns, qu'on chantera pendant la messe. Il n'y a pas beaucoup, un chant d'entrée, un chant de communion, un chant de sortie. Mais à chaque messe, je me réserve tout le mois d'en mettre un à moi. Alors il arrive que j'ai une espèce de bouillie pour le chat. Pas forcément hérétique, mais pas forcément bien chrétienne non plus, avec une musique impensable que personne chante parce que les gens ne savent pas. Mmh. Et puis moi, je mets à la fin, au début, un vrai cantique.
Tout le monde peut chanter.
Qu'est-ce qu'on veut dire que ça fait trembler les vitraux. Eh bien, voilà, c'est aussi simple que ça.
Oui, c'est vous, ça fait.
C'est aussi parce qu'on n'ose pas, parce qu'on n'ose pas.
Le temps va nous manquer, juste deux minutes, parce qu'après on aura deux messages d'auditeurs à dire et puis une annonce à faire, oui.
Oui, je peux vous dire, parce que c'est repris sur ce qu'a dit M. l'abbé Chanu. M. l'abbé Chanu dit que les lefébristes sont comparables à une secte.
Non,
ça, j'ai dit, mais avec
que la personne réécoute de mon attente.
J'ai dit exactement
le contraire.
J'ai l'habitude de prêcher dans le désert, vous savez.
J'en suis garant.
Qui?
Ah, c'est le général.
Monsieur l'abbé, il nous reste 4, 5, 6 minutes. Auriez-vous la gentillesse de dire pour nos auditeurs un petit peu motu proprio, mode d'emploi? Comment faire?
Motu proprio, mode d'emploi, d'abord on se rassemble. Pas Madame Trucmuche ou Monsieur Michu va voir Monsieur le curé. Alors, on sera un groupe cohérent. Ce groupe cohérent délègue une personne ou deux pour aller voir Monsieur le curé. N'allez pas voir n'importe quel Monsieur le curé. N'allez pas enquiquiner le curé dont vous savez que ça va lui donner une crise d'urticaire ou dont vous savez manifestement qu'il est incapable ou qu'il n'a pas les moyens ou c'est... Choisissez votre curé. La paroisse d'élection, ça existe. Posez la question. Je vous assure que dans bien des cas, vous allez être étonné du bon accueil. Dans d'autres cas, bon, voilà, mais vous allez être étonné. Choisissez votre, ne choisissez pas, ne faites pas de la provocation, soyez positif. Si le curé vous dit oui, eh ben, voyez avec lui comment vous pouvez faire. Si le curé vous dit non, montez à l'évêque. Si l'évêque vous dit non, alors il ne vous dira pas non comme ça. D'ailleurs, enfin, je ne pense pas qu'après le mot du proprio, il y en a un qui va oser dire non comme ça. Il va trouver, il n'a pas de monde, il n'a pas les gens. Oui, mais non, mais si, mais quoi, mais qu'est-ce ? Allez à l'Ecclésiade et demandez à l'Ecclésiade. Alors ne portez pas plainte. C'est une très mauvaise politique. De porter, de dire voilà, de dénoncer, non, dites voilà, toujours très positif. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution, etc. Et puis, mais ne vous attendez pas à une vitesse, hein. Tout ça va être, voilà, et puis point final. Et puis, ceci étant, le curé va dire la messe ad hoc, de célébrer la messe ad hoc. Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Est-ce que vous avez prévu pour l'animation liturgique, pour le service de la messe, pour les sous de la quête? Enfin, il y a des choses à voir, quoi. C'est, je ne vois pas pourquoi tout ça pèserait. Voilà, s'il faut savoir s'organiser, et puis être intelligent dans ce qu'on choisit. Ça me semble pas une partie gagnée, hein, mais ça me semble tellement plus facile que c'était. Enfin, vous imaginez, on vous aurait dit ce motu proprio il y a 6 mois. Moi, je n'y croyais pas du tout. Moi, j'avais même un peu baissé les bras, je dois dire.
Beaucoup de personnes avaient baissé les bras.
Ceci étant, j'avais dit, si vous avez un motu proprio, vous l'aurez en septembre. Il est applicable en septembre, c'est presque
quand le temps va.
Et ma conviction, c'est que tous ceux qui sont allés brailler chez le pape ont plutôt avancé la date de la promulgation.
Oui, ça c'est vraisemblable. Ça c'est vraisemblable. Moi, je pense aussi que, je crois aussi, c'est tout à fait vraisemblable que les protestations épiscopales n'ont pas bien disposé le Saint-Père. Peut-être qu'il avait l'intention de publier l'année prochaine ou plus tard.
Il y avait les préoccupations épiscopales, il y avait les choses universitaires aussi. Mm-hmm. Il y avait tous les journalistes de la création un peu marqués de catholicisme, vous savez, les grandes consciences chrétiennes, comme Duquesne par exemple, c'est celui qui a une foi si orthodoxe. tous ces gens-là se sont beaucoup ajoutés. Il y a eu vraiment un vrai groupe de pression qui ne s'est pas exprimé trop dans le grand public. Mais qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a été.
Et je partage un peu votre sentiment que cela a précipité la date de parution. Et puis bon, Rome a laissé suffisamment de temps. Le 14 septembre, c'est très bien parce que le motu proprio date du 7 juillet, donc ça laisse quand même plus de deux mois, une semaine. C'est très aimable. C'est pour tout le monde. C'est aussi pour les fidèles qui doivent saisir ce temps qu'il leur est aussi laissé. Pour s'organiser, sachant qu'il n'y aura pas des messes de Saint-Pie-V dans toutes les églises, dans toutes les paroisses, mais qu'il y en aura dans certaines, que ce serait une
pour ceux qui veuillent être bien élevés, être diplomates, et patients aussi quelquefois.
Rappelez-y où on peut justement s'organiser. Motu proprio.
Alors il y a motuproprio.com, il y a également sur le forum catholique, les gens peuvent rentrer en relation pour se créer des groupes parce qu'ils ne se connaissent pas tous dans les paroisses, moteur de recherche, j'ai trouvé.
J'ajoute qu'il est inutile de me demander à moi parce que je n'ai plus de paroisse.
Vous n'avez plus de paroisse, donc vous êtes tranquille. Vous avez d'autres charges à partir du 1er septembre. Nous parlerons d'ailleurs quand vous les aurez officiellement. Vous les avez officiellement, mais vous n'êtes pas encore en pratique. Alors, une petite annonce.
De samedi prochain, 18 août, de 15h à 18h30, le marquis Chérigues de Olmeta dédicacera l'homme à table à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, librairie qui sera fermée le lundi 20 août. Saint-Bernard. Voilà. Et puis, en commémoration des martyrs et victimes des massacres de septembre, une messe sera célébrée selon la tradition le dimanche 2 septembre à 16h30 par M. l'abbé Mouchel en la chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière.
Eh bien, merci pour ces...
Mouchel, il y a longtemps.
Il va célébrer. Alors, merci Victoria, merci beaucoup Monsieur l'abbé pour toutes ces explications. On va se revoir très très bientôt, je l'espère, avec un abbé Barthes parfaitement sûr de lui et dominateur pour discuter d'autres sujets, parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à discuter. J'invite évidemment nos amis auditeurs à continuer à prier et à faire dire des messes pour aux intentions de la santé de Serge Lepekech. On tâchera de vous donner des informations. Nous nous retrouvons dans 15 jours. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.